Cours de philosophie première par le Père Marie-Dominique Philippe, le 8 novembre 2001 à Saint-Judas.
Grand repos métaphysique, puisque ça fait plus de 15 jours, presque un mois. Alors, je ne fais pas reprendre où j'en étais resté, je reprends plutôt le problème d'une autre manière. Et on rejoindra l'autre aspect. C'est que, de fait, quand on regarde l'évolution de la philosophie grecque, avec son sommet Aristote, et pas de vrais disciples d'Aristote. C'est ça qui est curieux. Il y a Aristote, puis Théophraste, Dégringolade. Donc, Platon et Aristote ont été une grande montée vertigineuse, voulue par Dieu, sûrement, nous pouvons dire ça, dans un regard théologique. Et puis, la philosophie qui a continué d'exister avec les pères de l'Église. Saint Augustin, et avant Saint Augustin, le stoïcisme. On ne peut pas nier que le point de vue de la foi a été un climat, un milieu extraordinairement porteur pour l'effort de la philosophie. Les pères de l'Église ne confondent pas le point de vue de la foi et de la philosophie, mais l'effort de pensée fait que nécessairement la philosophie est comme présente et qu'elle se développe aussi à l'intérieur de la théologie. Quand on compare la philosophie d'Aristote et celle de Thomas d'Aquin, il y a quand même une différence. Hein. On ne peut pas dire Saint Thomas d'Aquin copie Aristote, loin de là. Et Thomas d'Aquin fait bien un effort philosophique, De ente essentia, une œuvre de jeunesse qui est très intéressante. Et maintenant qu'il y a une bonne traduction du DNT Essentia, l'abbé l'allemand l'a bien traduit. Et le commentaire de l'abbé l'allemand, ils y sont l'envoyés. L'abbé l'allemand était un thomiste un peu dur. Le père d'eau disait toujours, l'abbé l'allemand, il est dur. Ça fait partie des thomistes durs. Il y a des thomistes mous et des thomistes durs. De ente essentia, cette œuvre de jeunesse, saint Thomas, était tout jeune quand il a fait ça. Et de ente essentia est très intéressant. C'est un chef-d'œuvre. Si on avait le temps, on ferait un petit séminaire sur de ente essentia, ce serait palpitant. Et ça vaut la peine de le lire et de le relire. Et il y a une espèce de d'essai très mystérieux, très curieux, pour voir si l'intelligence peut et doit arriver à démontrer l'existence de Dieu. C'est dès le DNT Censure, saint Thomas a eu cette préoccupation très grande. Et saint Thomas avait comme mission d'être théologien. Il n'avait pas la mission d'être philosophe. Et saint Thomas, comme il est un très bon religieux, puisqu'il est un saint, il est un très bon religieux, surtout du côté théologique. Qu'est-ce que saint Thomas aurait donné au point de vue philosophique? Je ne sais pas, mais ça aurait été très intéressant. Ça n'aurait pas été la scolastique. Sûrement pas. Il commente la métaphysique d'Aristote. Et son commentaire de la métaphysique d'Aristote est à lire, hein, si vous avez le temps. Il faut lire le commentaire de la métaphysique. On n'est pas toujours d'accord. C'est le style particulier de saint Thomas. Et puis le style particulier des commentaires de saint Thomas. Mais c'est très intéressant. Ça vaut la peine d'être lu. Et je crois qu'un bon étudiant doit avoir lu ça dans le temps de ses études. Je sais bien, si c'est pas commode, ça vous astreint à étudier ça, mais c'est bon. Et puis la philosophie, dès la mort de saint Thomas, il y a un creux. Le XIVe siècle est très curieux, très intéressant, parce que ça va dans tous les sens. Alors c'est intéressant, c'est un éclatement. Et il y a même Occam, un franciscain, vous savez, Occam se pose la question, et c'est très important, quel est le commencement de la philosophie? Et Occam dit intelligo, il ne dit pas cogito, hein. Mettez en parallèle Occam et Descartes. Descartes beaucoup après. Hein. Occam est un théologien, un franciscain. Tandis que Descartes n'est pas précisément un franciscain. Occam se pose la question, qu'est-ce qui est premier? Intelligo. Et bien, comme il est un bon franciscain, il dit « et amo Socratem ». Donc, il y a deux premiers. Intelligo et amo Socratem. C'est très très beau, je trouve ça. Occam, 14e siècle. Hein. Occam est quelqu'un d'assez extraordinaire dans son erreur. Il reste fidèle à Rome, mais d'Occam est né des erreurs terribles, le protestantisme entre autres. C'est sûr que Occam a joué un rôle très important. Occam, il n'y a plus de métaphysique. Mais la métaphysique est remplacée par la logique. Et c'est vieux ça, hein, que la métaphysique soit remplacée par la logique. Quand on est fatigué, la logique a l'immense avantage d'être une canne extrêmement solide. On peut s'appuyer dessus. Et Occam s'appuie sur sa logique. Il y a une logique occamienne qui n'est pas du tout la même logique que celle d'Aristote. La logique occamienne est très intéressante. Fribourg. J'avais voulu travailler cette logique occamienne avec un autre professeur de philosophie, parce que les étudiants disaient « on assiste à votre cours, on assiste à son cours », ils disent juste l'inverse. Alors, on aimerait bien que vous puissiez faire un cours avec lui. Alors, on a accepté le désir des étudiants. On était à deux pour un cours, et puis on se bataillait devant les étudiants. Les étudiants aimaient ça follement, d'avoir une bataille. Et c'était intéressant, du reste. Et en plus de cette bataille, je lui avais dit, parce qu'il était, très, très gentil, il savait bien qu'on ne disait pas les mêmes choses. Et je voulais faire avec lui, parce qu'au fond, il était un commun. Je ne l'ai pas dit, mais il est un commun. Parce que Occam est quand même quelqu'un qui a mis en premier lieu intelligo, Descartes, cogito. Alors dire que le premier mot c'est intelligo, ou dire que c'est cogito, intelligo très bien devient très vite cogito. Traduisez cogito, hein. Je cogite. Intelligo, l'intelligence. Et c'est tout simplement une redondance sur le sujet, le cogito. Intelligo, ça donne encore le point de vue objectif, mais cogito, c'est très, très fort le point de vue. Et c'est intéressant de voir ça. Alors, on a à partir de Occam une métaphysique qui dégringole et qui s'identifie à sa logique. Donc, l'identification de la métaphysique et de la logique est une chose ancienne, dès le XIVe siècle, avec Occam. Occam a été condamné par l'Église, mais l'Église, c'était le pape à Avignon. Ça n'avait pas la même force. Mais parce qu'on voyait le danger. Et le danger d'Occam s'est épanoui dans Luther et Calvin. Mais Luther est très proche d'Occam. Occam va même plus loin, va beaucoup plus loin, parce qu'il est plus intelligent que Luther. Luther est un affectif. Mais on retrouve chez Luther toutes les erreurs d'Occam. Et ce franciscain est resté catholique jusqu'à la fin de ses jours. Et il enseignait des choses plus graves, qui allaient plus loin que Luther. Il a été condamné par l'Église d'Avignon. Il s'est soumis. Mais son intelligence est restée occamienne. Il y avait Amo Socratem. Avec Amo Socratem, ça lui permettait de passer à travers tout. Mais ceci est très important, parce que c'est le premier moment où l'on voit le sujet devenir l'objet. Je cogite, je pense, intelligo. Qui est premier, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est premier pour Aristote ? Ceci est. Qu'est-ce qui est premier pour Occam ? Occam se dit aristotélicien. C'est intéressant. Il se dit aristotélicien. Et comme aujourd'hui, Certains se disent aristotéliciens, c'est quand même assez loin d'Aristote. La référence est Aristote pour lui. Et il veut donner une logique nouvelle, la logique occamienne, quand j'étais étudiant, n'était pas rééditée, et donc il fallait la lire avec son latin du XIVe siècle, et les abréviations du XIVe siècle, c'est pas toujours commode. Ça a été réédité. Et donc, maintenant, la logique occamienne, on peut facilement l'atteindre. Et c'est intéressant. Ce n'est plus la logique de l'attribution, comme Aristote, c'est la logique. C'est une logique de la proposition. La proposition est première. Et non plus l'attribution. Pierre est un homme. L'attribution. On attribue homme à Pierre. Donc c'est un jugement. Et la logique d'Aristote repose là-dessus. La logique occamienne repose sur les liens qui existent entre les propositions. Si je fais cela, telle chose arrive. Vous voyez, c'est une logique de la proposition. Et par le fait même, c'est une logique qui, d'une certaine manière, ne regarde plus la signification. C'est une logique uniquement de la relation. Et c'est ça qui est la grosse différence entre les deux. Alors, Occam a été condamné. Mais ça rebondit au point de vue philosophique avec Descartes. Et ça restait quand même sous-jacent. La théologie occamienne, elle n'était pas, c'est pas parce qu'elle était condamnée qu'elle s'est pas, d'une certaine manière, la condamnation la mettait en valeur. On montrait que c'était quelque chose de nouveau, quelque chose de très nouveau. Et ça a été comme quelque chose de très nouveau avec Descartes. Descartes commence sa philosophie par le cogito. Donc, entre intelligo et cogito, pas grande différence. La grande différence, c'est que Amo Socratem, c'était franciscain, c'était pas Descartes. Amo Socratem est tombé avec Descartes. Et ça a eu une très grosse influence, puisque l'amour chez Descartes est avant tout passionnel. Et il ne dirait pas Amo Socratem comme point de départ. Et ça, c'est très important de comprendre que Descartes n'a plus compris ce qu'était la volonté. Ça, on reverra ça quand en étudiant la personne. Parce que c'est très, très intéressant de comprendre comment, chez Descartes, on a la personne humaine dans le cogito. Et la personne humaine, c'est le cogito. Donc, avec Descartes et le succès de Descartes, l'importance qu'a pris Descartes, c'est vraiment comme une nouvelle philosophie. Chez Occam, l'intuition de Descartes est présente, mais comme c'est un théologien, ça a été comme étouffé. Mais ça a eu de grosse importance puisque Luther est occamien. Et donc, ça a de fait une très grande importance religieuse et théologique. L'influence de Occam a permis une philosophie tout autre que celle de Thomas d'Aquin. une théologie qui commençait par le sujet qui pense, le cogito, je pense. Alors, nous sommes donc en présence, au point de vue philosophique, de deux philosophies qui s'opposent. La philosophie qui reconnaît le point de départ cogito, le point de départ ceci est, le ti esti, ceci est, et la philosophie du cogito, je pense, qui s'est développée de façon très variée depuis Descartes. Ce serait très intéressant, du reste, de voir toutes ces variations. Mais dans Husserl, on retrouve quand même l'importance primordiale de « je suis ». Pour Husserl, la substance, c'est le sujet. C'est moi qui demeure. Et donc, toute la phénoménologie, on retrouve ce primat du sujet. D'une certaine manière, on peut dire qu'il y a deux philosophies. Vous avez ce point de vue-là. Ordinairement, c'est ce qu'on dit. On a deux philosophies, une philosophie objective et une philosophie subjective. Une philosophie objective, celle d'Aristote, celle de Thomas d'Aquin, ceci est. Et une philosophie subjective, je suis, je pense. Oui. Cogito ergo sum. La philosophie de l'être est dépendante de la philosophie du cogito. Oui. Quand Descartes dit « je pense, donc je suis », vous voyez, le « je suis » qui pour Aristote est premier, le « je suis » devient second et devient relatif au cogito. Donc, très facilement, on dira historiquement, et c'est très vrai, que historiquement, il y a deux philosophies. Une philosophie réaliste, ceci est. Une philosophie subjective, cogito, en premier lieu. Historiquement, c'est juste que la philosophie aristotélicienne a été complètement remplacée par une philosophie subjective. Le cogito de Descartes a eu un succès énorme. Je me souviens, tout à fait au début, quand nous sommes revenus ici, j'avais pas mal de contacts avec Lyon, et j'étais en présence de gens que j'estime beaucoup, du reste, en dehors de la philosophie, que j'estime beaucoup, dans leur foi, là, qui étaient cartésiens. Oh, Descartes était le philosophe, le grand philosophe. Le cogito de Descartes, pour eux, c'est ce qu'ils avaient appris. On ne pouvait pas relativiser la pensée de Descartes. La pensée de Descartes était pour des catholiques la véritable philosophie. Aristote, on n'en parlait pas. Saint Thomas, on n'en parlait pas. Et ceci, ça n'a l'air de rien dire ça, mais c'est très important. Parce que si vous avez la philosophie cartésienne comme philosophie qui est vraiment la philosophie, vous ne pouvez pas répondre à la phénoménologie, à l'idéalisme. Vous êtes enfermé dans une pensée subjective. Et alors, que devient la foi ? La foi devient une nouvelle certitude, mais on ne regarde pas le plus. Or, ce qui est important dans la foi, c'est de comprendre que j'adhère à la parole de Dieu. La parole de Dieu me permet d'adhérer à l'existence de Dieu comme celui qui me parle, comme celui qui m'aime. Il y a une objectivité dans la foi. Bien que de fait, c'est vrai, la certitude de foi est capitale, puisque l'objet est non évident, l'objet me dépasse, mais je reste dans l'objectivité de la foi. Alors très vite, l'aspect subjectif va l'emporter. Nous sommes, nous, en présence d'une subjectivité qui est première et qui prend tout. Et qui, par le fait même, comme le montre le Saint-Père dans son encyclique sur la foi, sur la raison et la foi, il ne peut pas y avoir de vraie théologie, puisque la philosophie est premièrement subjective. C'est le sujet qui l'emporte. Faire une théologie à partir d'une philosophie où le sujet est premier, c'est impossible. Une telle philosophie ne peut pas être au service de la foi. Elle est au service de la foi en faisant dévier la foi et pas du tout en l'aidant. Alors la foi devient uniquement une attitude subjective. Quelqu'un qui croit, qui est certain, qu'il a la vérité, mais il ne sait pas ce que c'est. Donc, ça touche très profondément à toute notre vie chrétienne. Ça touche directement à notre théologie. La foi peut se servir d'une philosophie objective, mais la foi ne peut pas se servir directement d'une philosophie subjective. Parce que dans le point de vue philosophie subjective, le cogito est premier. Or, dans la foi, c'est pas le cogito qui est premier, c'est le cogito de Dieu. C'est la pensée de Dieu qui m'est donnée. Il n'y a rien de plus objectif que cette pensée de Dieu, et il n'y a rien de plus subjectif en même temps. Donc, on est... L'encyclique du Saint-Père montre très nettement la faillite, au point de vue théologique, d'une philosophie qui est basée sur le primat du cogito. Ça, il faut bien le saisir. C'est une donnée qui est pour nous très importante de comprendre que si on regarde l'histoire de la philosophie, très facilement on pourra regarder une philosophie objective et à partir de Descartes, à partir de Occam, une philosophie de la subjectivité, où le sujet est regardé en premier lieu. Alors on dira qu'il y a deux systèmes philosophiques. Bon. Ça, constatation assez simple à faire et historique, très nette. C'est très net qu'il y a ce mouvement-là. On peut se poser aussi la question, alors c'est plus important et plus grave. Oportet hereses esse. Le grand adage théologique. Oportet hereses esse. Il faut qu'il y ait des hérésies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça veut dire qu'on doit se servir de toute hérésie pour se dire que peut-être on a oublié quelque chose. Si on est d'une objectivité absolue et qu'on oublie la subjectivité et l'apport de la subjectivité, ça peut devenir très grave. Parce que la subjectivité, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que l'intelligence a cette capacité de réfléchir sur elle-même. Cogito, je pense. Et c'est grand, ça. C'est le propre de l'esprit. Donc, dans l'objectivité trop grande, on peut arriver très facilement à un positivisme qui exclut le point de vue de l'esprit. Et d'autre part, la subjectivité prise d'une façon absolue fait qu'on ne sait plus ce qu'est la vérité. On identifie très vite la sincérité et la vérité. La sincérité est subjective. Je suis sûr que c'est vrai. Et il y a des gens qui sont sincères, et c'est toujours très éloquent, la sincérité. Mais la sincérité, c'est mettre la subjectivité avant l'objectivité. Je vous affirme que c'est ça. Pour moi, c'est bien ça. Alors, pour moi, c'est bien ça, la subjectivité première. Et c'est très vrai, si l'aspect subjectif passe en premier lieu, la sincérité est première, et il n'y a plus de vérité. Alors, la grosse bataille, c'est ça, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est sincérité, vérité. Si vous faites un examen de conscience, vous êtes bien obligé de dire que il y a des domaines où la sincérité passe devant votre objectif, votre vérité. Je suis sincère. Mais la sincérité, c'est pas tout. Il y a une recherche objective. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui est dans une sincérité absolue, mais en même temps dans l'erreur, vous êtes bien obligé de dire ce que vous affirmez, vous êtes peut-être sincère. C'est très juste d'être sincère, c'est très bien d'être sincère. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas votre sincérité qui va me permettre d'être dans la vérité. Distinguez bien sincérité et vérité. La sincérité, c'est dire exactement ce qui vous semble être la vérité, ce qui vous semble être la vérité, ce que vous avez saisi de la vérité. Et vous devez toujours faire que la recherche de la vérité dépasse votre sincérité. C'est ce qui est important, c'est d'atteindre la vérité. Dans la sincérité, vous restez vous un petit bloc. Et peut-être sincère, c'est très beau, une très belle sincérité, c'est toujours très émouvant de quelqu'un qui est sincère. Mais ça devient dangereux quand la sincérité est telle, je vous affirme que ce que je dis est vrai. Ça peut devenir très dangereux, parce qu'alors il n'y a plus que votre sincérité. qui n'est pas la mienne. Et qu'est-ce qui nous permet de nous réunir ? C'est si votre sincérité éclate, que vous la dépassez et que vous cherchez la vérité. Ce qui est. Votre sincérité est première en vous. C'est ce que vous connaissez. C'est ce que vous avez atteint. Dans toute erreur, il y a quelque chose de vrai. L'erreur, c'est très souvent une vérité qui peut-être demande d'être relative, qui devient première. L'objectivité peut être très bonne, elle est très bonne, elle est nécessaire. Mais attention, l'aspect de la subjectivité est quand même quelque chose de très important aussi. L'affectivité, votre affectivité, c'est vous, c'est votre sincérité. Vous devez reconnaître que l'intelligence humaine a ce privilège d'être capable de réfléchir sur ce qu'elle pense et de dire ce que vous pensez. Et c'est nécessaire pour pouvoir progresser, pour voir si ce que vous dites, ce que vous saisissez est vrai ou n'est pas vrai. Vous ne pouvez progresser que à partir de vous-même, c'est bien évident. Autrement, vous recevez tout des autres. Recevant tout des autres, ce n'est pas vous. Alors, au bout d'un certain jour, au bout d'un certain temps, ça éclate. On est dépendant de la pensée de quelqu'un. Être dépendant de la pensée de quelqu'un, c'est très bien quand on commence. Mais être dépendant de la pensée de quelqu'un, il faut toujours que, et même progressivement, que cette pensée de l'autre auquel j'adhère devienne ma pensée par rapport à la réalité. Le but de l'enseignement, ce n'est pas de faire que tous ceux qui écoutent répètent ce qu'on dit, et de faire que ceux qui écoutent, eux-mêmes, découvrent la vérité. Le but de l'enseignement, c'est de permettre à l'intelligence de naître, d'éclore, de se développer. Et le but de l'enseignement n'est pas de faire des moutons de panurge, des autres qui suivent. Au début, c'est nécessaire, et c'est ça la difficulté. Au début, c'est nécessaire. On se met à l'école de quelqu'un. Bon, on a jugé que c'était bon de se mettre à l'école de quelqu'un. Donc, on suit ce qu'il nous dit. On ne critique pas, parce qu'on est incapable de critiquer. Alors, on l'écoute. On adhère. Mais rester tout le temps à l'école de quelqu'un. On peut le faire en théologie vis-à-vis de Thomas d'Aquin. Parce que l'Église nous dit qu'il est un maître. Si l'Église ne nous disait pas, on irait voir Thomas d'Aquin, Augustin, on verrait que de temps en temps ils ne sont pas d'accord sur pas mal de choses. Et on dirait Saint-Augustin, c'est un père de l'Église, alors je suis Saint-Augustin. Mais l'Église nous dit que Thomas d'Aquin est un maître plus sûr, qu'il a précisé. Alors, c'est difficile de dépasser Thomas d'Aquin. En théologie, Thomas d'Aquin reste pour nous un maître. En philosophie, Thomas d'Aquin dit qu'il est relatif à Aristote. Ah, allons à Aristote pour trouver la vraie sève de Thomas d'Aquin. Vous voyez, la très grande différence entre la philosophie et la théologie. En théologie, Thomas d'Aquin reste un maître. En philosophie, son maître est Aristote. Lui-même le dit. Il revient à Aristote. Mettons-nous à l'école d'Aristote. Essayons de comprendre ce que Aristote veut nous dire. Alors, lorsqu'il s'agit du primat de l'objectivité ou de la subjectivité, le primat de ceci est, ou le primat de je pense, je cogite. Il y a ces deux, Aristote, Descartes. Et c'est bien, c'est intéressant de voir ce primat de l'objectivité chez Aristote. Et ce primat d'objectivité repose sur l'expérience. C'est l'expérience qui est première. Le primat de la subjectivité de Descartes, c'est encore l'expérience, mais c'est l'expérience interne, je pense. Je pense est une expérience. Je fais l'expérience de penser. C'est encore l'expérience, mais c'est une expérience interne. Le primat de cette expérience m'enferme sur moi-même. Je pense. Je pense à quoi ? S'il n'y avait rien à penser, vous ne penseriez pas. Vous pensez toujours à quelqu'un. Vous pensez toujours à quelque chose. Ah, alors ce quelque chose, il est avant votre pensée. Puisque votre pensée dépend de cela, est relatif à ça. Tandis que, si je prends le cogito comme premier, c'est le fait de penser qui est premier. Alors, il est très important pour nous de comprendre que Descartes, il agit en réaction d'une objectivité trop forte qui prend toute sa force, très souvent, en s'identifiant à la logique. La logique veut, elle veut, je ne dis pas qu'elle est, hein, elle veut être d'une objectivité parfaite. Quand vous discutez avec un logicien, il vous dit toujours « mais c'est comme ça, c'est objectif ça ». Non, sa logique ne repose pas sur une objectivité parfaite, elle repose sur la pensée humaine. La logique n'existe pas dans la réalité, elle existe grâce au cerveau humain. J'ai ma logique. Et il y a une logique objective. Mais je dis bien, il y a une logique objective. L'objectivité vient de la réalité qu'on touche. Et la réalité qu'on touche, c'est le philosophe et le monde. Et il doit toujours respecter qu'avant la logique, il y a la réalité. Mais il y a quelque chose de juste, c'est que si ceci est premier, et que toute ma philosophie garde une objectivité parfaite, si le ceci est toujours premier. Mais ceci n'empêche pas qu'il y a une subjectivité qui est très grande à partir de l'amour. Dans l'amour, la subjectivité est toujours première. Et cette primauté de la subjectivité fait que les réalités qui sont supérieures à moi, c'est-à-dire Dieu, et le prochain est toujours une réalité supérieure à moi. Et ça, c'est très important de se le rappeler. Vous n'arrivez jamais à connaître parfaitement votre voisin. Votre voisin a un nœud de réalité qu'il faut respecter, même si vous n'arrivez pas à le connaître. Parce qu'il est une réalité spirituelle, personnelle. Donc, à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain, l'amour est nécessaire pour atteindre une subjectivité, une objectivité plus grande. Grâce à l'amour, je peux pénétrer plus avant dans la réalité qui me dépasse, Dieu et le prochain. Je connais mieux le prochain si je suis son ami. Je connais ses secrets. Peut-être que son corps, on le connaît mieux par une certaine objectivité de la connaissance, mais le corps vivant de quelqu'un, je ne le connais parfaitement qu'en l'aimant. De sorte que une philosophie objective, c'est très important pour la recherche de la vérité. Et cette philosophie objective doit comprendre que la subjectivité devient quelque chose de capital pour toutes les réalités qui me dépassent. Je ne peux les connaître profondément qu'en les aimant. C'est pour ça que pour Dieu, l'amour va plus loin que la connaissance. Pour le prochain, l'amour va plus loin que la connaissance. Quand on vous dit, ça arrive de temps en temps, soyons objectifs, regardons vraiment le prochain d'une façon objective. On voit ça de temps en temps. Et c'est effrayant. Ils oublient le respect qu'on doit avoir vis-à-vis de la personne. Je ne peux connaître bien mon prochain que si je l'aime. Et si je considère qu'il y a en lui quelque chose qui dépend de Dieu et qui est unique, et que je n'arriverai jamais à connaître parfaitement, mais je peux le connaître en le respectant. Et ça, c'est capital. C'est capital pour la vie commune, c'est capital pour ce que représente la connaissance qu'on a les uns avec les autres. Donc, je récupère le cogito, je pense, j'intellige, pour connaître plus parfaitement ce qu'est l'intelligence. L'intelligence a ceci de très particulier que la pure objectivité des réalités matérielles, des réalités physiques, des réalités corporelles, est très importante. Mais que, par rapport aux réalités qui dépassent le monde matériel, la connaissance de l'âme et la connaissance de Dieu, il faut un amour, donc, le respect de la subjectivité qui me permet de connaître vraiment l'autre tel qu'il est. Vous ne pouvez pas connaître vraiment Dieu sans l'aimer. Votre intelligence ne peut s'exercer pleinement que grâce à l'amour. L'amour est un tremplin merveilleux pour connaître la personne, pour entrer dans la connaissance plus profonde. Si vous voulez rester dans, soi-disant, une objectivité parfaite, vous n'arriverez à connaître que les choses extérieures et vous n'arriverez pas à atteindre les choses intérieures. De sorte que l'erreur de Descartes doit nous servir pour éviter une objectivité qui, très vite, ne serait plus une objectivité métaphysique, mais serait une objectivité logique. Le grand danger, quand on fait de la métaphysique, c'est, en raison de la difficulté, de se rabattre sur la logique et de tout ramener à une connaissance soi-disant objective, mais qui en réalité est une connaissance logique. C'est pour ça que c'est très important, surtout quand on cherche à connaître ce qu'est la personne humaine, de comprendre cette objectivité très profonde qui nous conduit à la connaissance de la substance, qui nous conduit à la connaissance de l'acte. Mais même pour la connaissance de l'acte, il faut une certaine subjectivité. Parce que l'amour nous permet de nous rapprocher de la réalité, de la fin qui nous transcende, qui nous dépasse. Et si on ne s'approche pas de cette réalité par l'amour, on risque de la ramener à notre dimension. On ramène l'être à une dimension logique, ce qu'on connaît de l'être. Ce qu'on connaît de l'être n'est pas l'être. L'amour nous empêche d'identifier ce qu'on connaît avec la réalité elle-même. Il y a les deux opérations, l'appréhension et le jugement. Et le jugement touche la réalité existante comme étant la mesure. La mesure de la réalité. Je suis dans la vérité quand ce que je dis est conforme à la réalité. Et cette réalité, je ne la possède jamais. C'est l'autre. Et ceci est surtout vrai pour Dieu. Mais c'est déjà vrai pour le prochain. Vous voyez, « Oportet thereses esse » C'est vrai même en philosophie. Descartes, en prenant le cogito, rappelle au philosophe aristotélicien qu'il y a quelque chose auquel on doit être attentif. C'est cette réflexion sur le moi. Ma connaissance de mon moi est autre que la connaissance de ceci est. Mais le ceci est demeure premier par rapport à je suis. Et toute ma philosophie est tout le temps entre les deux, ceci est, je suis.